Et bienvenue dans la deuxième partie d'Onde Noire, où nous avons été rejoints par Jacques. Bonsoir Jacques.
Bonsoir Corinne. Et donc toujours spécial BD, si j'ai bien compris, première partie.
Spécial bande dessinée. Donc on a été pris un peu par le temps. Je voudrais quand même donner quelques références en ce qui concerne Jean-Patrick Manchette. Donc d'abord la BD, La Princesse de Sang. Donc, première partie, illustrée par Max Caban, c'est pas très joli d'ailleurs, illustrée par les dessins, les décors, on pourrait dire, sont de Max Caban.
Mise en image,
voilà. Et donc, sur une adaptation d'abord de scénario, puis en BD, de Doug Edline. Et puis, il y a quelque temps, est sorti chez Quarto. Quarto, c'est des gros formats en papier très fin pour avoir toute l'œuvre d'un auteur. Donc, tous les romans noirs de Jean-Patrick Manchette chez Gallimard. Donc, très très beau livre, puisqu'on y retrouve tous les romans de Jean-Patrick Manchette. En même temps, des extraits du journal, une biographie complète. Enfin, c'est un roman, un livre totalement passionnant. Il y a son journal aussi, dont la première partie est éditée chez Gallimard 2008. C'est Doug Edline qui se charge de publier et d'éditer chez Gallimard ce journal. Et puis enfin, les chroniques de Manchette. Ça, c'est chez Rivage Thriller. Donc, quelques
nouveautés.
Chroniques
qu'il faisait dans les divers journaux,
voilà, parce qu'on n'a pas eu le temps, mais Jean-Patrick Manchette était aussi traducteur, aussi journaliste.
Il était un peu comme nous, il faisait des chroniques,
avec un talent. Oui, voilà. Je pense que, mais il n'y a pas photo. Mais bon, c'est comme ça. Donc, on vous avait parlé l'année dernière avec enthousiasme d'un premier tome d'une série parue chez Dargaud. Cette série va en comporter 3. Donc, le titre, c'est Ken Games. Le titre général de cette série, c'est Ken Games. Le premier tome s'appelait Pierre et c'était vraiment une très, très jolie découverte. Devinez, le deuxième vient de paraître. Le deuxième, toujours Ken Games, sous-intitulé...
Paul. Non, c'est pas Paul.
Non, c'est Feuille.
Feuille.
Feuille. Tiens, bienvenue à Tom, bienvenue à Paul, le petit-fils qui vient de l'être dans la famille de Claude Mesplède, le pape du polar. Voilà, c'est dit. Donc, on avait fait la connaissance dans Ken Games, le premier tome, de 3 personnages qui, étonnamment, étaient à la fois les meilleurs amis du monde, mais aussi mentaient sur leur vie à leurs proches. Donc, il y avait Pierre, qui soi-disant était un brillant étudiant en mathématiques, mais en fait... qui gagnait sa vie et qui s'éclatait sur les rings de boxe. Le deuxième tome, donc, qui s'appelle Feuille, c'est parce qu'il est centré sur son meilleur ami, qui s'appelle T.J. Feuille, et qui, là encore, dans la vie courante, est un as de la finance, mais en fait, tout ce qu'il gagne, c'est autour des tables de jeu. Donc, on a affaire à un jeu de dupes très, très subtil, une histoire d'amitié étonnante, brillamment mise en scène par José Robledo. Je le dis certainement pas bien parce que j'ai pas un accent espagnol fantastique. Et ce sont donc des histoires mises en image par Martial Soledano. Et c'est très impressionnant parce que c'est une espèce de jeu de dupes et de mensonges permanents. Et c'est assez rare de voir ça en images parce que les images ne mentent pas et les images montrent des choses. Et là, cette BD est vraiment très très bien faite pour ça. Il y a une mise en scène très cinématographique. Gros plans, mouvements sur un plan large, des couleurs qui envahissent chaque vignette. Chaque dessin, enfin, baigne dans une couleur. On a du vert très très froid à l'orange le plus chaud. Et le deuxième tome sera suivi du troisième, qui s'appellera, lui, très rigolo, Ciseaux. Pierre, Feuille, Ciseaux. Et là, on aura le destin de la fiancée de T.J. Feuille, qui s'appelle Anne. Elle fait croire qu'elle est instite. Alors que la nuit, c'est une redoutable tueuse à gages. C'est une ambiance très polar pour une histoire qui ne l'est pas vraiment, mais la narration fait qu'il y a vraiment un fort suspense et une histoire finalement qui tourne bien autour du roman noir. Voilà, donc je vous redonne le titre. Ken Games, premier tome, Pierre. Le deuxième qui vient de paraître, Feuille. C'est chez Dargaud et les deux auteurs sont José Robledo et Martial Soledano. Jacques, tu vas nous parler d'une autre bande dessinée,
d'un
autre album.
On appelle ça maintenant une BD graphique. Ça s'appelle James Bond, les origines.
Ça veut dire que quand il était petit ?
Quand il était jeune, voilà. Et en fait, c'est sous-titré donc Silverfin. C'est par Charlie Hickson et Kevin Walker. Donc, c'est une BD graphique adaptée d'un roman de Charlie Hickson. Il a écrit le roman il y a quelques années à la demande de la famille Fleming.
Rappelons que Ian Fleming est l'auteur de James Bond.
Pas celui de la pénicilline. Et ce roman, donc, il a adapté pour une BD qui a été mise en image par Kevin Walker. Ça fait un peu plus de 150 pages qui retrace un moment de l'adolescence du futur agent secret de Sa Majesté. L'album comporte, disons, trois grandes parties. La première, quand James Bond rentre au collège de Eton, un petit collège relativement sélect.
Eton,
voilà. Ensuite, à la fin de la période scolaire, il va rendre visite à son oncle en Écosse. Je rappelle, pour ceux qui ne sont pas amateurs de James Bond, que ses parents sont décédés un petit peu avant son adolescence dans un accident de voiture. Et donc, il rend visite à son oncle en Écosse, près du loch de Silverfin, d'où le nom du roman. Et la dernière partie se passe dans le château de Silverfin, où... qui est donc au bord du loch, où le jeune homme va mener sa première enquête. Bien qu'il ne soit pas encore, évidemment...
Est-ce qu'il y a une James Bond girl ?
C'est ce que j'allais dire. Donc, en fait, les aficionados ne retrouveront pas vraiment leur James Bond. On a tous notre James Bond. Alors, évidemment, ça se passe un petit peu en Écosse, la patrie de Sean Connery.
C'est ce que j'allais dire. Est-ce un hasard si Sean Connery a été un des interprètes les plus connus et il est écossais ?
Voilà, donc c'est bien possible. Je ne suis pas...
Un spécialiste
voilà, de James Bond, même si j'aime beaucoup. Donc, ils vont retrouver quelques trucs de leur héros. C'est un peu des clins d'œil, en fait. Il y a l'Aston Martin, qui est dans ce cas-là, une Branfon et Martin Silverdale Tourer de 1924, qui est la voiture de l'oncle. Parce que Branfon et Martin, c'est les fondateurs de la société Aston Martin. Il y a bien sûr une très jolie jeune fille, qui a un cheval qui s'appelle bizarrement Martini. Martini pour un petit clin d'œil, évidemment.
Est-ce que le cheval, il a une olive ou deux... Non, ça ne marche pas, c'est pas ça.
Voilà. Mais ça, ce n'est pas dans les James Bond.
Je sais.
Et puis, bien sûr, il y a des savants fous qui veulent conquérir le monde. Enfin, dans ce cas-là, un ou deux savants fous, puisque ce n'est qu'un épisode. L'intrigue est assez intéressante, mais c'est pas vraiment... Mais sans plus, ce n'est pas vraiment ce qui fait l'intérêt du roman. L'intérêt du roman, c'est vraiment l'adaptation graphique. C'est un véritable tour de force, peut-être pas exagéré, mais enfin, vraiment quelque chose d'assez bien fait par Kevin Walker. C'est la façon dont il a découpé le roman, ses dessins. En fait, la plupart des vignettes sont très très longues, étroites et très longues en hauteur. Et c'est, tu disais tout à l'heure, découpage cinématographique, mais c'est à peu près ça. On voit, il y a des fois des zooms carrément, alors on va sur trois ou quatre vignettes successives, ou champ contre champ, ou alors carrément, on voit un très très gros plan sur un objet, ou même sur une partie d'un objet seulement. Par exemple, la gâchette, je crois, on ne dit pas la gâchette, mais
une petite partie du fusil, on va dire.
Une petite partie du pistolet, voilà.
Ah, du pistolet, pardon.
C'est vraiment... ça donne vraiment une dynamique à
cette BD
graphique.
Cette
BD, vraiment, qui est assez étonnante. Presque même par certains côtés, certaines pages, on dirait presque du manga.
Donc,
bien que ça se lise quand même de gauche à droite.
Malgré qu'il y ait beaucoup de références et donc que ça s'adresse avant tout à des passionnés de James Bond, on peut quand même recommander cette BD à toute personne qui aime beaucoup le dessin et donc les albums graphiques.
Ah, tout à fait, oui, complètement. Puis en plus, bon, alors il y a une finale, je ne vais pas tout vous dire, mais qui finit un peu fantastique. Ça, par contre, c'est assez éloigné. Je trouve, de l'univers de James Bond, mais bon, c'est quand même dans l'esprit. En fait, tous les cas, moi, j'ai vraiment aimé, et si jamais vous avez un proche qui aime James Bond, on approche...
Un beau cadeau de Noël.
Voilà.
Donc, on rappelle, c'est chez Casterman, c'est ça?
C'est chez Casterman, ça s'appelle James Bond, les origines, Silverfin, de Hickson et Walker.
Donc peut-être un petit morceau de musique?
Un petit morceau de musique, qui n'a strictement rien à voir, un groupe américain de country rock qui s'appelle les Mover Truckers, comme les conducteurs de camions, et le morceau s'appelle Let's All Go to Bed, allons tous au lit. Don't have time to think.
C'est quand même marrant de proposer d'aller au lit en faisant autant de bruit. Mais ça ne doit pas être pour dormir, hein.
Ceci dit, si vous voyez la chanteuse, vous n'iriez pas dormir dans le camion, hein.
D'accord. Comment ça s'appelle?
Les Mother Truckers.
Les Mother Truckers.
Les mamans de...
Des camionneurs. Les mamans des camions. Bon. Eh bien, on va rester dans la BD, dans cette dernière partie d'émission, pour vous recommander très très chaudement un album qui s'intitule « Bonne nuit les petits ». Le scénario est d'Olivier Maux et le dessin sont de Langlais. Apparemment, j'ai un petit peu cherché, apparemment c'est son premier album et c'est vraiment une réussite. Donc Olivier Maux, c'est un écrivain de romans noirs, c'est son troisième album de BD et on vous avait parlé d'ailleurs il y a quelques... ça fait peut-être un an maintenant.
Quelques temps, disons.
Quelques temps, on avait beaucoup aimé le précédent qui s'appelait « Au revoir monsieur ». Au dessin, c'était Rémi Mabessoun. Même avis pour celui-là, c'est un grand album. La couverture est déjà très très inquiétante. On a une espèce de contre-plongée avec des immeubles parisiens et un gros plan sur des pavés où gît une tétine. Tétine de bébé, hein, une tétine classique. Et cette tétine semble être très très attractive pour un espèce de chat noir. Évidemment noir, le chat, c'est évident. Alors évidemment, on ouvre l'album. Et on est tout de suite séduit par le dessin. Le passage d'une case à l'autre, très fluide, avec au début un gros plan sur Jeanne, 18 ans, qui voudrait bien être comédienne, mais toute seule, apparemment, elle n'a pas vraiment de famille. Elle enchaîne à toute allure, et c'est vraiment à toute allure parce qu'elle traverse Paris au volant de son scooter pour passer d'un petit boulot à un autre petit boulot. Petit boulot, évidemment, aussi mal payé les uns que les autres. Et tout ça sous l'œil très très égrillard des mâles aux trognes vraiment avinées qui matent, on peut dire, son joli cul. L'autre personnage qu'on découvre dans la deuxième partie, c'est...
Son beau postérieur.
Pardon, excuse-moi. Donc, c'est fesse, quoi. L'autre personnage, c'est Fabrice. Deuxième chapitre, en gros, de cette bande dessinée, on découvre Fabrice. Un fils à papa qui se réveille avec une bouteille de champagne vide à la main. Un type plutôt abject. Lui, il va fêter ses 18 ans. Un jour de la vie de ces deux personnages, hein, on a vraiment une unité de temps très resserrée puisque tout se passe sur une journée. Et elle a 18 ans et elle croit que ça va être une journée spéciale parce que bientôt, elle va tourner dans un bout de feuilleton débile, mais au moins, ça va lui rapporter un peu des sous. Et puis lui, Fabrice, il fête ses 18 ans. Donc, c'est une journée très spéciale. Ah, ça, pour être une journée très spéciale, ça va être une journée spéciale, mais ça, je vous laisse le découvrir. Il y a un scénario vraiment impeccable, avec des scènes d'ailleurs où la caméra, hein, un peu, encore une fois, on est dans des BD qui sont très très cinématographiques, la caméra s'éloigne du sujet principal pour capter toujours un tout petit détail. Ce petit détail étant toujours très lourd de sens. Là, on navigue dans le noir et blanc.
C'est tout en noir et blanc, donc.
Tout en noir et blanc.
À l'encre, avec... à l'encre apparemment.
À l'encre. Tout à fait. Enfin, il me semble, mais encore une fois, je suis plus spécialisée dans le roman noir que dans la BD. Oui, ce sont des très beaux dessins à l'encre. Et il y a en particulier de magnifiques contre-jours où, en toile de fond, on ne voit que des silhouettes. Et ça, je trouve que c'est un procédé vraiment très, très intéressant pour orienter le récit. C'est vraiment très, très bien. Et puis, il y a ces gros plans de personnages chez hommes qui reluquent Jeanne. Ça, c'est vraiment c'est terrible parce qu'ils ont des tronches absolument pas possibles et qui montrent la vulnérabilité. Enfin, elle est très faible, cette jeune fille, finalement. Hein, on va dire ça comme ça. Il y a les copains de Fabrice aussi, les meufs. Alors, on va faire un mauvais jeu de mots. Les meufs à la teuf, c'est absolument sordide, quoi. Mais, album magnifique. Donc, je redonne le nom. Ça s'appelle « Bonne nuit les petits ». Vous comprendrez le titre en vous procurant cet album et en le dévorant, comme je l'ai fait. Donc, les dessins sont de Langlais, le scénario est d'Olivier Maux et c'est paru chez Casterman. Comme d'habitude, on a été trop disert. On ne pourra pas vous parler des deux autres BD. Donc, avant de rendre l'antenne, je voudrais quand même citer une réédition à partir de trois petites enquêtes, donc c'est trois novellas, on va dire, de José-Louis Boquet. C'est des rééditions en noir et blanc. Alors, c'est une histoire assez bizarre parce que c'est d'abord paru en trois enquêtes, qui est d'abord paru dans Spirou. Ensuite, ça a été
dans les années 80
en noir et blanc. Et on ressort en couleur. Je sais pas si c'est mieux en couleur ou en noir et blanc. J'ai comparé. J'ai les deux à la maison, je les ai comparés. Les deux ont vraiment du charme. Donc en tout cas, laissez-vous séduire par la version couleur qui est vraiment flamboyante et qui rend justice au décor hollywoodien de cette BD. Ça s'appelle Le Privé d'Hollywood. C'est de José-Louis Boquet et c'est chez Dupuis. Voilà.
Et t'as pas cité le...
Bonne lecture.